Music du Monde. Laurence Aloha. Tegi Mfatrore. Music du Monde sur RFI.
Et c'est un duo platine piano qui va régaler la session live aujourd'hui avec le pianiste argentin Gustavo Bettelmann et le DJ producteur français Philippe Cohen Solal. L'album s'appelle The Human Seasons, les saisons humaines, et c'est inspiré par un poème de John Keats, un poète anglais romantique du début du 19e siècle, celui qui éclaire les temps sombres. Je ne sais pas si ça vous parle. Bettelmann a tourné avec Astor Piazzolla, mais pas seulement. Cohen Solal s'est fait connaître avec le Gotan Project, le tango à l'ère numérique. Breaking news, il n'y a pas de tango sur cet album. Gustavo Bettelmann et Philippe Cohen Solal sont sur le plateau du grand studio, le premier devant le piano, le second derrière son ordinateur et ses machines. Bonsoir.
Seasons fill the measure of the year. There are are four seasons in the mind of man. He has his lusty spring when fancy clear takes in all beauty with an easy span. He has his summer when luxuriously springs honeyed cud of youthful thought he loves to ruminate, and by such dreaming high is nearest unto heaven. Quiet coves his soul has in its autumn, when his wings he furleth close, contented so to look on mists in idleness, to let fair things pass by unheeded as a threshold brook. He has his winter too, of pale misfeature, or else he would forego his mortal nature.
Gustavo Bettelmann, Philippe Pensolal sur RFI.
Musique du monde. La session live.
Philippe Cohen Solal était au platine, Gustavo Bettelmann au piano. C'est le grand retour de Gotham Project. Oh, la boulette.
Pas vraiment, mais en tout
allez,
cas...
Allez, je sors les armes, les gilets...
Non, mais c'est vrai que c'est parti quand même de quelque chose qui s'était passé pendant un concert de Gotham Project il y a très longtemps, en 2003.
Alors, revenons-y, parce que votre projet à tous les deux s'appelle The Human Season. C'est d'après le titre, enfin, d'une partie de l'œuvre de John Keats, dont on reparlera, vous qui aimez le roman gothique anglais.
Oui.
Frankenstein, tout le fantastique, les morts qui ressuscitent tout ça. Human Season, donc les quatre saisons. Alors, justement, ce disque qui parle du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver vous rappelle un souvenir de Gotham Project où, à un moment, l'électricité, il n'y en avait plus. Et comme il y a beaucoup de machines, vous êtes retrouvés, j'allais dire, comme des cons. Pas du tout.
Si, si.
Vous étiez tout à fait impressionnés et prêts à réagir, comme des grands artistes que vous êtes.
Oui.
Racontez-nous, Philippe.
Bah, effectivement, il faut savoir, avec Gotham Project, il y avait beaucoup de musiciens en live, je veux dire, qui jouaient sur scène, mais il y avait pas de batteur et pas de bassiste. C'était le principe, c'était si on veut schématiser, c'était la rencontre entre Piazzolla et Kraftwerk. Voilà, donc Kraftwerk, il n'y a pas de batteur et pas de bassiste. Donc les rythmiques devaient être vraiment sortir des machines. Et donc tout le monde jouait sur les rythmiques, c'est-à-dire basse-batterie, qui était balancée par l'ordinateur, par des séquences, etc. Et à un moment, effectivement, c'était en Italie, je crois, à Caserte, hein, de souvenir, Gustavo.
Ouais, tout à
c'est
bien.
Ça. Les ordinateurs ont planté. Tout d'un coup, les ordinateurs ont planté et là, on s'est retrouvés comme des cons quand même, pendant un moment, très stupéfait, un peu stupéfait. Et Gustavo, c'est plus rapide que tout le monde, s'est jeté sur le piano et a commencé à vraiment improviser. Et moi, du coup, avec mes platines, j'ai commencé à improviser avec Gustavo.
Parce que les platines marchaient.
C'était les ordinateurs qui marchaient.
D'où
plus.
L'intérêt d'avoir quand même un vrai musicien avec un instrument.
Ah oui, sinon on va se coucher.
Gustavo Bettelmann, vous êtes arrivé d'Argentine depuis la fin des années 70. Un parcours musique classique, évidemment le tango. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais d'après mes sources, qui sont forcément judicieuses, vous avez accompagné Duke Ellington lors d'une tournée en Argentine, c'est vrai ?
Oui, j'ai joué... J'ai ouvert les concerts de Ellington. Et donc voilà.
Donc voilà.
Pour les souvenirs, non ? Et pour avoir un peu de galon.
Et puis, quelques années plus tard, enfin, vous avez beaucoup de choses en Argentine. Vous avez travaillé pour la télévision, le cinéma, enfin, énormément. Vous avez un CV gros comme mon bras. La France, c'est la fin des années 70. Astor Piazzolla vous propose de l'accompagner sur sa tournée européenne qui commencera par l'Olympia. Donc, je note Duke Ellington, Astor Piazzolla, Gotham Project. Ça va. Louise Jalut, OK, d'accord. OK, Juan José Mussolini, d'accord. Donc, vous êtes un homme avec des oreilles immenses. Alors, comme l'an dernier, c'était le centenaire de la naissance d'Astor Piazzolla, je serais tentée de vous demander quels sont vos tangos préférés. J'ai fait une liste, hein, si jamais vous êtes en manque. Alors, j'ai choisi Oblivion, Buenos Aires Hora Cero, Soledad, Adios Nonino ou le Libertango.
Buenos Aires Hora Cero.
Celui-là ?
Si. Pour moi, il fait plus lié à moi-même. Parce que Buenos Aires Hora Cero, qui à vrai dire, disons, qui n'est pas une expression à proprement parler de la langue espagnole. C'est plutôt Zero Hour en anglais, non?
Si.
Qui l'a traduit et donc on a pris pour de l'argent comptant. Non, ça correspond aussi à tout un monde que s'ouvrait. Mais quand je dis un monde, je dis ce n'est pas l'Argentine. On était jeunes, mais ça s'est passé un peu partout. Donc, pour moi, le Buenos Aires Horacero a une connexion aussi avec les démarches du quintet de Miles Davis. Et donc, on se sentait intégré à la planète. Pas seulement le niveau était là, mais le niveau musical du monde professionnel argentin n'avait pas attendu Piazzolla pour monter. Il était avant lui, il a continué après lui. Mais la créativité et la manière dont lui, il avait perçu cette musique argentine au sein de la planète, ça c'était nouveau. Et enfin, nous, les jeunes, ça nous a été un modèle librement choisi.
En gros, on a retenu le nom d'Astor Piazzolla. C'est peut-être ça que vous ne remettez pas en question, mais...
Ah non. Et surtout, ce qu'il ne faut pas remettre en question, c'est l'effort, et là je parle en tant que musicien argentin, l'effort de Piazzolla de placer, non, l'Argentine et sa musique au sein des concerts du monde. Et ça, c'est une décision. Là, il y a la volonté. Et c'était la volonté d'Astor. Et il n'y en avait pas une conscience de soi, et je pense, diffusée. Donc, il y avait une notion de qualité, d'exigence, de niveau, tout ce que vous voudrez. Mais Astor avait cette idée que, par sa propre histoire, d'enfant né au sud de Buenos Aires et grandi dans Little Italy, non, au centre de la ville du XXe siècle, qui est New York, qui fait de Astor un voyageur, non, et un homme inséré dans la planète, inséré dans le monde. Et nous étions une banlieue du monde. Et Astor a fait un travail. Et moi, ce travail, je pense qu'il l'a fait avec un degré de conscience que la plupart des musiciens argentins n'avaient pas à l'époque.
Sur ce nouveau projet, Philippe Cohen-Solal avec Gustavo Bettelmann, dans mon monde, Gustavo Bettelmann, on vous appellerait maître. Ça ne vous va pas du tout?
Enfin, je ne sais pas, ça me perturbe.
C'est-à-dire que quand un musicien arrive à un tel niveau de virtuosité et qu'il est un grand monsieur dans son domaine, on ne l'appelle plus par son prénom et son nom, on dit maître.
Merci beaucoup.
Pandit.
C'est mérité. Oui. On l'appelle maestro, absolument.
Maestro, oui, absolument. Philippe Cohen-Solal, vous avez un principe sur cette nouvelle production, ce nouveau projet de Human Season, c'est-à-dire pas de jazz et pas de musique de Buenos Aires.
Oui, enfin, c'est vrai qu'on avait... pas envie de rentrer particulièrement sur un projet comme ça dans une case, et on n'allait pas que Gustavo se mette dans la case absolument tango pour le connaître et connaître sa musique. Sa palette est beaucoup plus large que ça, et puis ses oreilles sont beaucoup plus ouvertes que serait le tango. Évidemment, fait partie de son ADN, mais c'est pas que, il y a le jazz, il y a plein d'autres musiques, et donc c'est vrai que ni l'un ni l'autre avions envie de se retrouver cantonné dans un truc. Et puis, on avait envie de laisser l'imprévisible arriver entre nous. Et si on fait appel à l'imprévisible, à ce moment-là, il ne faut pas essayer de prévoir justement, on va faire ça, toi, tu vas jouer dans tel esprit. Non, laissons libre, et on s'est retrouvés comme ça en studio avec ce désir de liberté, en tout cas. Ouais.
Vous avez démarré cette session live avec l'hiver, qui est la dernière partie de ce nouveau projet de Human Seasons, qui est en fait une métaphore des quatre saisons, non pas la pizza ni Vivaldi, mais... Oh, j'avais promis que je ne voudrais pas. Je suis désolée. Sur l'hiver, évidemment, sur le CD, ça commence par un crépitement de cheminée. Vous avez fait appel à beaucoup de sons de la nature. Il y a énormément d'oiseaux. Quels sont pour vous les oiseaux les plus chanteurs, les plus harmonieux, les plus mélodieux?
Je ne sais pas quels sont les plus mélodieux. Les oiseaux, en général, chantent et communiquent par le chant. Donc, effectivement, mais il n'y a pas que, dans, par exemple, dans Summer, qu'on va jouer tout à l'heure, il n'y a pas que, il y a aussi les grillons. C'était, en fait, l'idée de faire rentrer ce qu'on appelle le field recording, en fait, les enregistrements au son, fait par les instruments. En fait, la nature fait du son. Et donc, par exemple, les grillons, où on pouvait les transformer presque en son cumbia, presque en rythme cumbia. Et voilà, c'était un peu ça l'idée, c'est de mélanger voilà tous les sons, toute la musique du monde, enfin la musique du monde, la musique de la vie quoi,
du monde. Ouais. Après l'hiver vient l'automne. Oui, c'est comme ça que ça marche, la chronologie, chez Philippe Cohen-Solal et Gustavo Bettelmann, deux aliens.
Känslosam, din avgrund mellan känsla och sentimentalitet. Preludiet du spelar talar om återhållen smärta, inte om drömmerier. Det måste vara lugn, klar och kär. Ser du väl bara de första takterna?
L'automne, cet extrait du CD de Human Season, cette espèce d'improvisation platine piano entre Gustavo Bettelmann et Philippe Cohen-Solal. Alors, les gens ne l'ont peut-être pas reconnu parce qu'on l'entend en version française ou en anglais, mais il y avait la voix suédoise d'Ingrid Bergman dans le film Sonate d'automne, où elle interprète une pianiste, une concertiste qui visiblement a sacrifié un peu sa famille au profit de sa carrière. Ça va, Gustavo Bettelmann? Vous avez une famille nombreuse?
Je vous suis non, au quart de tour.
Vous avez réussi à avoir une vie privée quand même, ou c'est le piano votre maîtresse principale?
C'est difficile. Moi, j'ai eu le sentiment qui maintenant est relativement... Enfin, je pense qu'il est partagé avec ma compagne, qui avant tout, je me suis marié d'abord avec la musique. Non? Et qu'il n'y en a pas de concurrence, mais qu'il faut accepter que monsieur est marié avant tout avec la musique.
Ah, ça, c'est le cas de quasiment tous les musiciens.
Donc, ouais. Oui, c'est ça. Donc,
bien sûr.
Mais moi, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il fallait le dire.
Et vous, ça va de votre côté, monsieur Cohen-Solal?
Moi, je me fais... ma compagne me reproche souvent de faire passer, évidemment, la musique en premier, parce qu'en plus, sur mon Facebook, j'ai utilisé la phrase de John Miles dans une chanson qui s'appelle Music, c'est « Music was my first love and it will be my last ». Donc elle me reproche régulièrement, elle me dit « Ouais, tu vois, c'est
la musique est mon premier amour et sera mon dernier amour ».
Exactement. Ce qui est vrai, ce qui est malheureusement ou heureusement vrai, en tout cas, et c'est comme ça.
Donc sur le titre qu'on a écouté, donc qui s'appelle L'automne, hein, je rappelle que votre album s'appelle The Human Season, donc qui évoque les quatre saisons, la vie d'un humain. Vous avez pris un passage du film d'Ingmar Bergman où Ingrid Bergman raconte quelque chose, mais quoi ? Parce qu'elle parle en suédois et vous parlez suédois.
Ma compagne est suédoise en fait, et donc mon petit garçon
est
bilingue, suédois, français, même trilingue, il parle anglais aussi. Et donc du coup, j'entends le suédois mais sans le comprendre, donc j'ai vraiment fait attention. Et là, elle essaye en fait dans cette scène. Cette mère qui sacrifie sa famille pour sa musique, comme vous disiez, elle veut montrer à sa fille comment jouer Chopin, quoi. Parce que sa fille, pourtant, je crois, joue quand même plutôt bien Chopin, mais sa mère, elle est encore tellement dure, et donc elle lui explique tout ce qu'il faut mettre comme intention, comme émotion dans Chopin, et donc elle la casse en même temps, mais en même temps, elle a raison, parce que c'est vrai que elle qui a dédié sa vie à la musique, elle a quand même son mot à dire par rapport à Chopin particulièrement, puisqu'elle a beaucoup joué Chopin. Donc voilà, c'est un peu ça la scène du film Sonate d'automne, qui est un très beau film.
Gustavo Bettelheim, il ne vous aura pas échappé que Philippe Cohen-Solal adore la littérature. Là, pour ce nouveau projet, il a emprunté à John Keats. Je dirais d'ailleurs ce que vous aimez chez les Anglais de cette période-là. Oui. Mais juste avant, vous avez fait un projet avec un des musiciens de Tongue autour d'Henri Darget, qui lui aussi était bien allumé,
oui,
et qui a fait un bouquin de plus de 15 000 pages avec des dessins et tout. Donc évidemment, c'était pour Philippe Cohen-Solal. Vous avez raté l'époque du club des Hachichins, avec l'île du docteur Moreau qui est l'île Saint-Louis, avec Alfred de Musset, Théophile Gautier, etc. Non, mais il va très loin. Entre la drogue et la littérature, je ne sais plus où aller avec Garcon.
Les deux ensemble.
John Keats, encore un type qui est mort très 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 jeune. Mm-hmm. Ouais. Je ne sais pas si ça fait partie de la légende. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette époque de la littérature anglaise ?
Pour dire la vérité, je ne suis pas du tout spécialiste ni attiré spécialement par cette époque. J'ai été attiré par ce poème de John Keats. Parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est cliché de partir sur les quatre saisons. Mais ce poème parle d'un truc qui n'est vraiment pas cliché, qui sont les quatre saisons de la vie qui nous touchent tous. Et donc, ce qui était intéressant peut-être dans notre projet, c'était de partir d'un truc qui est vraiment cliché, les quatre saisons, et d'essayer de faire un truc qui est complètement improvisé et sortir justement de la boîte. Donc, mon amour pour la littérature anglaise est vraiment... j'ai aucune autorité dans ça. J'aime certains livres, évidemment. Je lis comme tout le monde. J'ai un ou deux livres à la maison. Voilà.
Dans votre tête, Gustavo Bettelheim, vous vous situez dans quelle saison ?
Écoutez, c'est une très bonne question. Parce que
dans votre tête, hein, pas physiquement.
Parce que c'est paradoxal. J'ai 77 ans. Et pourtant, je pense que je dois avoir l'énergie et les projets pour un type de 35 ans ou 30. Donc, j'ai encore, pas la volonté, mais surtout l'énergie. Je suis pas arrivé à l'époque, disons que je ne suis pas à l'automne, donc je ne suis pas blasé.
Et vous, Philippe Cohen-Solal ?
Pareil, vraiment, j'ai l'impression que ma curiosité s'attise à chaque année. En fait, j'ai l'impression d'être plus curieux aujourd'hui que je l'étais encore. Pourtant, je l'étais. Hein. Je peux dire, à 15 ans, 16 ans, j'étais quand même très curieux du monde et je lisais plein de livres, j'allais voir plein de concerts, j'étais boulimique même. Mais je le suis encore et donc... effectivement, je viens d'avoir 60 ans, donc j'en reviens même pas, quoi. j'en reviens même pas.
Et, gamin.
Et je me sens, un peu gamin, comme pour plein de trucs.
C'est un décalage, hein.
Et c'est le regard de l'autre qui peut dire, monsieur, comme ça, ou qui va vous laisser une place dans le métro. Mais moi, j'ai pas besoin de place dans le métro, c'est bon, je peux être encore debout, largement.
Bon, les adolescents attardés au taf. Non, pardon. Gustavo Bettelheim, Philippe Cohen-Solal, si vous voulez rejoindre respectivement votre piano et vos platines, vous allez interpréter une version, j'allais dire, montée pour la radio de L'été. Oui, parce que vos morceaux font 10-15 minutes et je vous ai demandé ce que vous pouvez leur poursuivre un tout petit peu, ce qu'en général on ne demande pas parce que c'est un crime de lèse-majesté, mais là, nous avons tenté, nous avons gagné. Philippe Cohen-Solal, Gustavo Bettelheim, dans la session live de Human Seasons. Thank you.
as is summer, when luxuriously spring's honeyed cud of youthful thought he loves to ruminate, and by such dreaming high is nearest unto heaven.
Philippe Cohen-Solal, Gustavo Bettelmann sur RFI dans les musiques du monde.
Musique du monde, la session live. Sur RFI.
Cherche Grégory Peck et Audrey Hepburn désespérément. Quelques vacances romaines, vous me ramenez dans les années 50 chez William Wyler. Je ne suis pas sûre que les petits extraits en langue italienne viennent de ce film d'ailleurs.
Non, ça vient de...
Sorpasso.
Ouais, c'est ça. C'est le, en français, c'était...
Le fanfaron.
Vous avez vécu à Rome, vous, Gustavo Bettelmann.
Oui, j'ai vécu à Rome, oui.
Combien de temps?
J'ai vécu entre 4 et 5 ans.
C'était dans les années...
C'est la fin des années 70, début des années 80.
Est-ce que c'était une époque heureuse pour vivre à Rome?
Rome est une des plus belles villes au monde. Il se passe, comme disait Andy Warhol, qui a recommandé à un jeune qui voulait dédier sa vie à la peinture, il lui a dit, si tu veux, il y a deux pôles. Soit tu vis à New York ou tu as tout ce qui est nécessaire pour faire une carrière, soit tu vis à Rome où il n'y en a rien, mais la plus belle ville du monde. Bon, voilà. Je ne sais pas quoi dire, je garde un très bon souvenir de Rome.
Oui.
Et de l'Italie en général.
Et des Italiennes.
Des Italiennes surtout, et aussi et de la langue. C'est une des belles choses qui me sont arrivées dans mon existence, c'est avoir rencontré. Parce qu'il y a une histoire qui correspond aux Argentins. Et c'était une langue méprisée, l'italien, en Argentine. Parce que les Italiens, par le nombre et par le type de travail social qu'ils faisaient, étaient les Nord-Africains.
De l'Argentine.
Exactement.
D'accord.
Donc, qu'est-ce qui fait? Les gens pouvaient étudier l'anglais, le français, disons, quand j'étais enfant, puisque c'était la langue de la culture, non? Et loin derrière les autres langues. Et donc, pour moi, c'était resté. Moi, j'ai découvert la langue en vivant à Rome. Bon, je me suis pris d'un amour fou pour la langue.
Bien, on gardera la langue et l'amour fou. Qui est l'homme qui parle, qui récite les poèmes de John Keats sur ce morceau? Enfin,
c'est un comédien anglais qui s'appelle Chris Ettridge, avec qui on avait déjà travaillé à l'époque de Gotham Project. Il avait dit un poème. On avait collaboré ensemble déjà il y a quelques années sur un morceau qui s'appelait Checkmate. Et donc, et je lui ai redemandé de dire ce poème. Alors, il l'a fait quelques fois et j'ai pris les versions que je préférais, on va dire. Et il fallait que ce soit quand même un comédien anglais qui le fasse, qui le délivre, parce que c'est un très beau poème et ça ne pouvait pas être, pour le coup, improvisé, ça.
Philippe Hohensolal, Gustavo Bettelmann, je me demandais sur cet album, puisque précisément il est né d'une panne informatique, d'ailleurs vive les pannes informatiques, parce que ça permet d'accoucher de très beaux projets, comme c'est une forme d'impro, quand vous êtes sur scène ou si vous allez faire de la scène ou quand vous jouez ici dans une émission de radio, vous restituez exactement l'album ou vous vous permettez encore de prendre le chemin de traverse?
Ah, c'est impossible de reproduire l'album, puisque non. C'est une improvisation,
non. Donc bah, c'est ça.
C'est impossible, donc chaque fois, on improvise, en fait, chaque fois qu'on fera des concerts ou des performances ensemble, ce sera obligatoirement improvisé.
Mais vous faites des petits plans à page tous les deux, genre envoyer un son un peu bizarre de manière à surprendre Gustavo et Gustavo faire des accords super surprenants de manière à ce que Philippe soit un peu déstabilisé derrière ses platines. Vous êtes bons camarades. Non, c'est bien de se faire des petits plans aussi.
Oui, oui.
Oui, mais on se donne au moins une organisation temporelle. Par exemple, je sais que je peux ne pas penser au temps qui passe, mais que quand la voix, par exemple, rentre, admettons, c'est vers la fin du morceau. Donc je sais que là, je dois commencer à me préparer à quitter le morceau. Non? Et que de ce point de vue-là, et Philippe joue le rôle, je pense, d'un chef d'orchestre. Il coordonne les activités dans le temps et dans l'espace. Pas seulement les éléments qu'il a à sa disposition pour faire la musique, mais aussi son étalement dans le temps et dans l'espace.
Vous êtes d'accord, patron?
Sans savoir l'air de lire des notes de musique, je suis chef d'orchestre, je suis ravi.
Il n'y a aucun mépris de votre part, Gustavo, parce que Philippe est producteur, il travaille les sons, il n'est pas
ici,
passé par les conservatoires.
On est deux.
Ouais.
On est deux. Moi, je trouve deux choses intéressantes à remarquer, disons, dans les cas de notre propre histoire. C'est-à-dire que dans ce que nous faisons, il n'y a pas une once de nostalgie de Gotan.
Oui.
C'est hyper important.
Oui.
Donc, il y a une autre chose belle qui correspond à notre propre histoire qui passe par Gotan, c'est que nous avons sauvé la mise une fois à Caserta parce que le précepte de « the show must go on », non, donc il fallait que ça continue quoi qu'il arrive. Mais
remémore le concert où il y a eu une panne informatique et vous avez improvisé. D'où vient ce projet aujourd'hui?
On ne s'est pas dit après, Madonna, que c'est bien, il faudrait continuer. On ne s'était pas dit, mais pourtant, ça fait tilt à mes oreilles et ça trouvait un écho en Philippe. C'est beaucoup d'années plus tard, quand je dis beaucoup, peut-être 10, 15 ou 18 ans plus tard, qu'on coïncide dans un souvenir commun de qu'on a, que grâce à la panique généralisée, on avait ouvert dans la désespération une porte qui nous avait conduit à une découverte.
Comme quoi, chaque événement n'est ni bon ni mauvais. Il est.
Il est, exactement.
Je vous ai demandé de concocter une playlist, alors on va commencer par le maestro, Gustavo Bettelmann. Vous avez choisi le titre A Fuego Lento d'Horacio Salgan Orchestra. Vous voulez me parler un petit peu de ce personnage,
Horacio,
de ce musicien argentin?
Sí. Et si. Horacio est un énorme pianiste et un homme qui a amené, disons, au contraire de Astor, une révolution andouze.
Je crois que Piazzolla, c'est pas... Hein, c'est, voilà, il y a quelques mots. Oui, j'entends. D'accord.
Non, je dis en douce parce que...
Monsieur Bettelmann.
Lui était parti à la conquête de la planète, non, avec les armes qui étaient les siennes. Et Salgan était un homme qui a eu tout un autre parcours. Il a apporté énormément de choses au tango.
Et surtout qu'il a duré très longtemps. Je crois qu'il est mort à l'âge
c'est
de 100
incroyable.
Ans.
C'est incroyable. Il est mort à 100 ans.
Ça voilà, nous change c'est... de John Keats, Monsieur Cohen.
Oui, oui, pas tout à fait. Oui, vraiment.
Et il a marre de ces gens qui meurent à 20 ans.
C'est vrai.
Et donc, Horacio, qui en plus il nous représente bien, même comme pays jeune, parce que Horacio m'a raconté qu'il a décidé de dédier sa vie au tango le jour qu'il est allé à la répétition, tout jeune, de sa big band, parce qu'il avait fini tout un répertoire pour l'orchestre de jazz. Et quand l'orchestre s'est mis à sonner, le type s'est dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Je devrais être en train de jouer du tango. Donc, et je dis, c'est bien des choses de pays jeunes. Donc, et rythme, swing, écriture savante, et grand niveau instrumental, qu'est-ce que vous voulez? Mieux que ça?
Horacio Salgan, un choix de Gustavo Bettelmann. C'était le Horacio Salgan Orchestra avec le titre A Fuego Lento, qui était un choix du compositeur qui fait du piano, Gustavo Bettelmann from Argentina. Don't cry for me. Voilà. Alors, Philippe Cohen-Solal, vous aussi, je vous ai demandé de choisir. Vous avez choisi Véronica Silva. Vous avez la reconnaissance du ventre, puisque Véronica a quand même chanté avec Gotham Project.
Absolument.
Vous voulez vous raconter un peu sa vie, son œuvre et le titre que vous avez choisi, qui est Doña Ubensa.
C'est Véronica Silva, donc, qui a effectivement été la chanteuse de Gotham Project sur pas mal de concerts, sur deux tournées quand même, à l'Argentine. Elle habite à Buenos Aires. Et Véronica m'a demandé d'écouter son album, qui est en fait un album où elle a vraiment. Inspiré du folklore, c'est des reprises de chansons folkloriques ou d'inspiration folklorique. Et j'ai vraiment flashé sur cette chanson, dont je connaissais la version de Mercedes Sosa, qui est très belle, mais là, elle avait fait une belle relecture. Et donc, c'est là-dessus où je lui ai dit, je vais essayer quelque chose, qu'elle me demandait de retravailler le morceau pour un remix. Et j'en fais pas beaucoup, mais là, j'ai eu vraiment du plaisir à le faire. Et d'autant plus que j'adore les contrastes entre l'ancien et le moderne. Enfin, je fais que ça, quoi, d'une certaine façon. Et donc là, j'ai vraiment essayé d'amener ce morceau d'inspiration folklorique argentine vers presque le trap, ou vers un truc avec vraiment des basses énormes, des rythmiques. Et je suis assez fier du résultat, en fait. Et c'est pour ça que j'ai me suis dit, tiens, on va là.
Écoute, pas de fausse modestie. Ah bah quand on est content de son boulot, faut le dire.
Exactement.
Ok, Véronica Silva choisit remix de Philippe Cohen-Solal sur un morceau qui a été rendu célèbre par Mercedes Sosa, Doña Upensa.
Ando llorando pa dentro, aunque me ría pa fuera. Si tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a baguañar.
Écoutez, Mercedes Sosa, là c'était la voix de Véronica Silva, repassée entre les doigts et les machines sorcières de Philippe Cohen-Solal. Vous avez aimé, Gustavo Bettelman, le travail de Philippe sur ce morceau?
Tout à fait, c'est très original.
Oui.
Et donc, tout en respectant les morceaux,
oui.
Les morceaux vivent une vie ailleurs, non, de son contexte.
Ça s'appelle avoir du style. Pendant qu'on écoutait le titre remixé par Philippe, vous nous parliez de Mercedes Sosa, que forcément vous avez connu, entre Argentins.
Oui, entre Argentins et exilés, parce que c'était le cas. Nous nous sommes fréquentés ici, à Paris, à une époque où elle était exilée, moi aussi j'étais exilé, etc., etc.
Ça rapproche. Alors, Gustavo Bettelman, on revient à vos choix musicaux. J'ai cru comprendre que le choc esthétique de votre vie quand vous étiez plus jeune, c'était l'écoute de Thelonious Monk. Et c'est pourtant un contrebassiste que vous avez choisi, enfin qui fait du piano aussi. C'est Shirley Mingus. Alors, vous avez choisi le titre Goodbye Pork Pie Hat. C'est a theme for Lester Young. Vous l'avez rencontré, Shirley Mingus, ou pas?
Non,
malheureusement. Il a un sacré caractère.
Mais par contre, il était un des très bons amis à moi, qui s'appelle Chuck Israels, qui est tout un chapitre du jazz à partir des années 50, et puisqu'il a joué, enfin, il faudrait dire avec qui il n'a pas joué, pour le reste, il a joué avec tout le monde, entre autres avec Bill Evans, 6 ans, et il a été un peu le mentor de Chuck, donc ouais, je connais un peu sa vie qui n'est pas pas parce que j'ai lu, mais plutôt parce que Chuck me raconte. Et en même temps, je pense que c'était un musicien phare de la musique, eux, ils pourraient dire, afro-américaine.
Et à l'époque, on disait bebop et hard bop.
Si, mais c'est, pour eux, c'était the great black music.
Shirley Mingus sur RFI. Gustavo Bettelmann, parce que grâce à vous, je crois que c'est la première fois qu'on passe du Charlie Mingus dans les musiques du monde. C'est-à-dire que j'ai quelques disques à passer, je ne peux pas passer tout ce qui s'est créé sur cette planète depuis que le son est musique et la musique est son. Mais bon, voilà, ça, c'est fait. Merci Gustavo. On va terminer avec Philippe, qui a choisi un artiste, alors qui vit à Montréal, au Québec. Oui. Il s'appelle Cristobal Tapia de Ver, donc hollandais
En fait, il est chilien, il est d'origine chilienne, il n'a pas le nom annoncé. Enfin, Cristobal, ça pourrait.
J'ai du nez.
Non, ça sonne effectivement hollandais ou flamand. Et c'est un jeune compositeur que j'ai découvert grâce à une série que j'ai bien aimée qui s'appelle The White Lotus, qui se passe à Hawaï et qui est vraiment bien, bien foutu. Et j'ai adoré la musique. J'ai vraiment flashé sur cette musique, et ça arrive pas souvent dans les séries télé. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment bien, celle de Succession particulièrement, elle est très bien. C'est rare qu'on soit interpellé par la musique, et là il a réussi à faire une sorte de musique du monde, justement, mais qu'il a retravaillé à sa façon, il se l'est approprié, et il a fait une musique très originale, d'inspiration hawaïenne, mais pas du tout cliché, pas du tout, c'est vraiment pas le truc, la carte postale hawaïenne. Il en a fait quelque chose que j'ai trouvé formidable. Et alors, je me suis un peu intéressé à son histoire. Il est né au Chili, après il a habité en France.
Quelle drôle d'idée.
Bah oui. Et son père était français, donc mère chilienne, père français. Sa mère est partie au Québec avec son fils, et le père est resté à Paris, en France, je ne sais plus. Et voilà, il vit depuis pas mal d'années, mais il doit avoir peut-être la quarantaine max, quoi. J'adore ce qu'il fait, et je voulais... Voilà,
il n'a pas un nom facile, hein. Non. Juan Cristobal Tapia de Ver, ce n'est pas tous les jours. Merci Philippe Cohen-Solal, on va finir avec ce morceau de ce garçon. Et merci à Gustavo Bettelmann d'être passé dans cette émission pour présenter votre projet commun. The
merci
Human
Laurence.
Seasons. Non, je suis en train de réciter comme une hôtesse de l'air. Allez-y, arrêtez-moi, parce que
moi je dirais en espagnol, con gusto, avec beaucoup de plaisir.